je vais peut-être à nouveau redonner la parole à Michel Ferrier. Peut-être, moi, peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont la société japonaise vit l'après Fukushima, je dirais, dans son quotidien. Est-ce que les modes de vie ont changé? En quoi ils ont changé? Est-ce que les types de rapports sociaux ont changé? Est-ce que les gens sont abattus, par exemple? Est-ce que voilà, comment la société se relève-t-elle de ce désastre?
Alors d'abord, ça dépend des régions, évidemment. À Fukushima même, c'est-à-dire dans la préfecture de Fukushima, la préfecture de Miyagi, à Iwate, c'est-à-dire dans le Tohoku, c'est-à-dire la région nord-est qui a été frappée par le tsunami et qui est très proche de la centrale, il y a ce que j'appelle une espèce de demi-vie qui s'est installée. Alors ce que j'appelle la demi-vie, c'est des modes de vie dont si j'avais décrit ces modes de vie il y a un an et demi, deux ans, on aurait dit que j'étais un très bon écrivain de science-fiction. Par exemple, ça consiste à vérifier de manière très angoissée la plupart des légumes, la plupart des produits alimentaires. Alors, il y a des tas d'entreprises qui maintenant fleurissent un peu partout, jusqu'à Tokyo d'ailleurs, de mesure de la radioactivité des aliments. C'est devenu quelque chose qui est de plus en plus courant. Il y a une anxiété qu'on sent, une anxiété qui frappe beaucoup de personnes, mais surtout les gens qui ont des enfants, et notamment des enfants jeunes. Et les femmes enceintes, il y a pas mal de gens, quand ils le peuvent évidemment, des femmes enceintes qui vont accoucher dans le Kansai, c'est-à-dire dans la région beaucoup plus au sud, du côté de Kyoto. Et il faut dire aussi cette horreur, les enfants aujourd'hui dans la région de Fukushima se promènent avec des dosimètres autour du cou. C'est-à-dire que le dosimètre est déjà un compagnon aujourd'hui. Il se porte en collier, en bracelet. Donc il y a tout un tas de choses complètement anormales et qui sont en train de rentrer dans une certaine normalité. Là, on est en train de finir avec le réalisateur Watanabe Kenichi, dont la femme, je crois, est dans la salle quelque part. Christine. Watanabe Kenichi est en train de finir un très beau film qui s'appelle Fukushima, le monde d'après, qui passera sur Arte l'année prochaine. Et on est en train de finir le film et il y a des images de ces enfants qui vivent dans des... Enfin, il y a des interviews qui sont des entretiens avec des gens de Fukushima qui peuvent soit faire rire, soit faire pleurer, parce que c'est tellement poignant. Il y a des gens, il y a un père, par exemple, qui dit, ben voilà, j'ai vérifié avec des experts, un microsievert par heure, quand le dosimètre indique cette dose-là, ça va à peu près, c'est limite, mais ça va à peu près, après, il faudra vérifier la santé des enfants. Un microsievert par heure, si on ramène ça à un an, ça fait des doses incroyables. Il y a une femme qui, en allant se faire un bouquet de fleurs dans son jardin, elle se prend des doses quasiment de l'ordre des professionnels du nucléaire. Donc on est quand même dans une espèce de vie très étrange qui est à moitié acceptée, à moitié... Enfin, que peuvent faire les gens, vous savez, quand vous n'avez pas d'argent, quand vous avez vécu toute votre vie là, quand vous avez une famille à nourrir? Partir, c'est pas si facile. Donc voilà, pour répondre à votre question, il y a cette première chose. Dans les territoires contaminés, il y a une vie extraordinairement inquiétante qui est en train de s'installer. Parce qu'on présente comme normal. Si vous voulez, on est en train de normaliser et même de légaliser parfois la mise en danger de la vie. Et ça, sur toutes sortes de personnes, et notamment sur des femmes enceintes et des enfants qui sont quand même, dans une société normalement constituée, porteuses de l'avenir de cette société même.
D'accord. Il y a des migrations internes d'une région à l'autre. Et est-ce qu'il y a aussi une déconsidération pour les gens qui viennent de ces régions, de la part du reste de la population ?
Alors,
une
une
déconsidération,
défiance, oui, une méfiance, c'est certain. Une méfiance, peut-être pas des gens par rapport aux gens, mais quoique, au moment de la crise, au plus fort de la crise, au moment critique, il y a eu, hein, je raconte ça dans le livre, moi j'ai entendu des enfants de Tokyo crier « Baikin » à d'autres enfants qui venaient de Fukushima. « Baikin », ça veut dire la vermine. Quand des enfants sont à ce point, quand des enfants se permettent ce genre de phrase, c'est que évidemment ils sont dans un environnement ils sont imprégnés d'un état d'esprit général. Donc au plus fort de la crise, il y a eu. Aujourd'hui, il y a un mouvement de solidarité aussi, mais effectivement, il y a de la méfiance. Et c'est normal. C'est-à-dire, dès que vous voyez au supermarché un produit de Fukushima, vous l'achetez pas. Alors certains Japonais, de manière très japonaise, je trouve, ils achètent et après ils jettent. Après, il y a aussi des mouvements de solidarité. Et ça pose des problèmes parce que certaines régions autour de Fukushima ne sont pas trop contaminées, on va dire. Et les agriculteurs, évidemment, sont très en colère d'être assimilés à leurs voisins qui, eux, sont beaucoup plus contaminés. Le problème de la radioactivité, c'est ça, c'est que on vous fait des belles cartes avec des cercles concentriques. Ça a l'air très scientifique, mais en fait, sur le terrain, vous voyez bien que la radioactivité ne se déplace pas selon des cercles concentriques, évidemment. Elle se déplace en fonction du relief, des vents, du climat. Et donc, ça crée effectivement, de facto, de fait, par force, ça crée des rapports de tension entre certaines régions. C'est inévitable.
Quel est le suivi médical de ces populations ?
Alors, il y a des laboratoires. Il y a un suivi médical. Je ne sais pas exactement quelle en est l'ampleur. Je sais qu'il y a un problème, mais ça, c'est un vieux problème. C'est celui qu'on appelle le problème des petites doses, c'est-à-dire des faibles doses de radioactivité, dont nul expert n'est en mesure de dire si, à quel degré et comment elles sont dangereuses. Ce qui est quand même extraordinaire, parce que l'industrie nucléaire gagne un gros paquet d'argent depuis un gros paquet d'années. C'est un problème scientifique sur lequel il n'y a pratiquement aucune recherche. Et les rares recherches qui existent, évidemment, subissent un feu de barrage et suscitent des tas de polémiques. Si l'industrie nucléaire réinvestissait au moins une partie, ne serait-ce qu'une partie de l'argent qu'elle gagne et qui, encore une fois, est immense dans la recherche médicale de manière sérieuse, on pourrait quand même avoir un peu plus foi dans la parole de ces gens. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas.
Est-ce qu'on peut tenter la comparaison suivante entre la France et le Japon sur, disons, deux points, qui sont d'une part la capacité de fonctionnement de la démocratie, de part et d'autre, et par ailleurs, la capacité de dialogue public. Alors, sur le premier point, mon opinion est la suivante, c'est que les positions sont assez semblables, pour des raisons historiques totalement différentes, en sens que le Japon... Michael Ferrier, vous me corrigerez si je dis des bêtises, a fait une ouverture vers la démocratie au sens où nous l'entendons à l'époque Meiji. Il y a eu, disons les 30 premières années, quelque chose d'extraordinaire qu'a vécu le Japon. Et on s'est aperçu qu'au début du XXe siècle, sous l'effet de scandales à répétition venant du monde politique et de violences sociales extrêmement fortes, les militaires ont repris la main et que la démocratie a été évacuée. Et je pense qu'aujourd'hui, le Japon ne connaît toujours pas de démocratie. Et que la démocratie est captive d'une classe, d'une caste, je dirais, qui est la caste bureaucratico... l'alliance entre le ministère des Finances et les grands conglomérats qui verrouille le débat démocratique. Et qui le verrouille d'autant mieux que c'est un pouvoir qui ne se voit pas et qui donc ne se contrôle pas. Donc le problème des check and balance ne fonctionne pas. Et on l'a très bien vu dans le nucléaire, et c'est pour ça que cette histoire de Fukushima est très révélatrice, c'est que les procédures de contrôle des centrales n'ont pas fonctionné, et d'une manière extrêmement grave, et qu'ensuite les contre-pouvoirs qui pouvaient agir pour prendre des décisions allant dans le bon sens n'ont pas fonctionné aussi pendant un certain temps. Et puis, curieusement, les choses se sont dénouées pour la deuxième raison. Alors, sur ce plan, je dirais que la France est dans le même état, mais ça, c'est mon avis personnel, c'est que la démocratie française, dont on s'est longtemps vanté, est aujourd'hui dévoyée. Et particulièrement dans le domaine nucléaire. Je pense que le nucléaire a été une avant-garde de ce dévoiement, puisqu'on a vu que le système s'est enfermé sur lui-même, hors de tout débat politique, à partir du moment où on a décidé de se lancer dans la course au nucléaire, à la fois pour des raisons militaires et des raisons civiles. Voilà. Alors, le deuxième point sur lequel les positions des deux pays sont un peu semblables de ce point de vue-là, sur le fonctionnement de la démocratie. Sur le dialogue public, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, d'après ce que je comprends, au Japon, il y a quand même une longue tradition... j'allais dire de palabres et de consensus. La première fois que j'étais au Japon, j'ai été très surpris d'entendre mes amis me dire qu'ils étaient des fermiers et qu'ils voulaient faire pousser des fleurs dans leur rizière, qu'ils avaient toutes les autorisations administratives. Au bout d'un an, ils avaient ça, mais qu'ils ne faisaient rien parce qu'il fallait d'abord voir le chef de village. J'avais entendu ça en Afrique, mais... Et effectivement, ils ont été voir le chef du village, qui les a reçus très aimablement, et qui leur a dit « il faut que le conseil prenne une décision ». Et 6 mois après, effectivement, « ok, vous pouvez y aller ». Et là, et puis quelqu'un a dit dans l'assemblée, un vieux sans doute, « mettez des petits pois, parce que dans ce coin-là, c'est sympathique, les petits pois ». Donc ils ont réservé 1 mètre carré pour les petits pois, et ils ont fait leurs fleurs. Et donc, finalement, le problème a été résolu. Avec le temps et avec cette capacité de discussion, cette patience, et tout le monde s'est mis d'accord, et à partir de ce moment-là, ça a parfaitement fonctionné. En France, je pense que, pour des raisons longues, cette capacité de discussion publique est complètement absente. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, et je sais que je me rappelle aussi que M. Laponge parlait des gens de la bonne société. Tout à l'heure, qui se mettent d'accord. Et à partir du moment où on est d'accord, c'est tout à fait incorrect de discuter de cela. Et effectivement, on s'aperçoit, mais dans tous les problèmes de la société française, qu'il y a un certain nombre d'interdits qui mettent au placard des problèmes qui sont en fait les problèmes essentiels de la France. Donc il y a vraiment quasiment une interdiction du débat public, d'où la violence qui prend le relais. Enfin voilà, j'ai peut-être été un peu long, excusez-moi, mais...
Non, non, c'est vos deux questions sont très pertinentes, mais elles mettent en jeu des connaissances énormes. Et par exemple, sur la question du Japon, pays démocratique ou pas démocratique, moi personnellement, je pense que le Japon est un pays démocratique. Si en tout cas on considère la France comme un pays démocratique, il n'y a aucune raison de ne pas considérer le Japon comme un pays démocratique. Si on considère Israël comme un pays démocratique, pareil. Si on considère, etc., etc. Donc là, mais là on va entrer dans une espèce de civilisation comparée ou de comparatisme des institutions politiques qui vraiment demanderait énormément de temps et énormément de minutie et de finesse. Donc ce que je préfère vous répondre par rapport à la question, d'ailleurs. Quand vous dites qu'il y a une longue tradition de palabres, de discussions qui permet de se mettre d'accord, ce qu'on appelle en japonais le nemawashi, effectivement, il faut un consensus le plus large possible. C'est une forme de la démocratie, vous voyez. Donc ce que vous avez dit dans votre deuxième question contredit un tantinet ce que vous avez exposé dans la première, vous voyez. Oui. Donc si on laisse de côté ce massif énorme de la réflexion politique sur qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, surtout aujourd'hui, et qu'on se reconcentre sur la question du nucléaire, là, en revanche, je pense que n'importe quelle réflexion un tout petit peu élaborée conclura très vite que, effectivement, le fonctionnement nucléaire, et en France, et au Japon, et dans n'importe quel pays, n'est pas démocratique. Il y a, à ma connaissance, Bernard Laponge connaît ça mieux que moi, mais je crois qu'il y a seulement 3 pays qui ont laissé leur opinion publique se prononcer soit par un vote, soit par un référendum sur la question du nucléaire. C'est la Suède dans les années 80, l'Autriche, qui a même fait une loi ensuite, et l'Italie. Et dans ces trois pays, la réponse a été non. Donc, de ce point de vue-là, on peut déplorer, évidemment, et c'est ce qu'on ne cesse de faire d'ailleurs, le manque d'ouverture, le manque de débat, l'opacité qui semble constitutive du monde nucléaire pour plusieurs raisons. Parce qu'on touche aussi, on touche aussi au militaire nucléaire dès qu'on touche au militaire civil. Il y a aussi cette question-là que Bernard a évoquée tout à l'heure et qui est très importante. Et dernier point, vous avez dit que les contre-pouvoirs n'ont pas fonctionné, ce qui est exact, que la gestion de la catastrophe au Japon a été catastrophique, c'est le cas de le dire, c'est tout à fait exact. Dans la prévision, dans l'anticipation des problèmes, ça a été nul. Dans la gestion des évacuations, par exemple, ça a été nul. Et encore aujourd'hui, dans l'indemnisation, c'est-à-dire à toutes les étapes, à tous les degrés du processus, aujourd'hui, la question des indemnisations, c'est un problème énorme, un problème financier énorme. On balance des dossiers d'indemnisation à des gens qui, déjà, pour la plupart, sont traumatisés. Beaucoup sont des personnes âgées. On leur balance des dossiers d'indemnisation de 60 pages à remplir. Moi, j'ai vu une grand-mère de 80 ans qui me demandait de remplir ça en japonais avec elle. Et elle comprenait pas, je comprenais pas mieux, mais son fils, qui est professeur d'université, un grand francisant, un grand spécialiste de littérature française, comprenait rien non plus au dossier de 60 pages qu'on lui demandait pour avoir une indemnisation. Alors vous allez me dire, ils ont fait un effort, ils ont mis 160 pages en plus d'explications. Donc vous voyez. Donc on peut dire que là, à tous les niveaux, hein, anticipation, gestion et indemnisation, le suivi de la catastrophe, si vous voulez, a été catastrophique. Ceci dit, je prends les paris qu'il se passerait exactement la même chose demain dans n'importe quel pays où un accident de ce genre surviendrait. Et je crois même que le Japon est quand même pratiquement le pays le mieux préparé aux catastrophes naturelles, et pour cause. Et malgré cela, on présentait le Japon, les autorités internationales du nucléaire présentaient le Japon. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais il y a plusieurs documents comme quoi le Japon était le modèle sûr, fonctionnel, fiable de l'industrie nucléaire avant le 11 mars 2011. Voyez. Mais encore une fois, je suis certain que la gestion d'une telle catastrophe en France, par exemple, générerait exactement le même genre de problème, voire pire.
Sur le dernier point, c'est certain. Pour la raison suivante, c'est que l'accident étant impossible, vous n'avez pas à vous occuper des conséquences. Alors, maintenant qu'il est devenu possible, toujours, théoriquement, enfin, il est admis qu'il est possible, il faudrait tout reprendre. Hein, puisqu'il est possible. Mais c'est très embêtant, parce que si vous admettez qu'il est possible et que vous regardez un peu la situation des centrales, vous arriveriez assez vite au fait que, bof, il serait quand même mieux de les arrêter. Ou en tout cas de les arrêter progressivement. Mais qu'en tout cas, elles sont pas vraiment au top. Et c'est là que ça s'arrête. Voilà. C'est là que ça s'arrête, c'est-à-dire que, bon, elles sont au top. Et donc, c'est très difficile de faire à la fois... d'expliquer aux gens que, un, elles sont au top, mais comme l'accident est possible, il va falloir qu'on fasse des exercices d'évacuation. Parce que si vous prévoyez des exercices d'évacuation, ça veut dire que l'évacuation est envisageable et que, par conséquent, la cause de l'évacuation est possible. Et donc, vous emmêlez les pinceaux. Et donc, finalement, il vaut mieux ne rien faire. Et donc, s'il y avait une catastrophe nucléaire, pas forcément d'ailleurs aussi grave que Fukushima, hein, si l'accident qu'il y a eu au Blayais... Il a été question d'évacuer Bordeaux, on ne l'a pas fait, je pense qu'on a eu tort. Parce que l'accident du Blayais pouvait se transformer en un accident beaucoup plus grave. Mais vous vous rendez bien compte que si on avait évacué Bordeaux, d'abord c'était probablement il y avait plus de victimes du fait de l'évacuation que du fait de la radioactivité. Et deuxièmement, ça mettait en évidence que ces machines sont dangereuses. Donc moi, je suis tout à fait de l'avis que le comportement des autorités françaises, si on ferait intervenir sûrement beaucoup plus facilement l'armée. Parce que là, dans les pays occidentaux, quand même, l'un des pays les plus militaires dans son esprit, au moins au niveau de ses dirigeants, c'est quand même la France. Et je pense qu'il y aurait immédiatement... Et le pouvoir étant les préfets, vous avez le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, les CRS et l'armée qui immédiatement bloqueraient les situations accidentelles. Ça, c'est à peu près certain. Et d'ailleurs, dès qu'on parle de situation accidentelle ou de risque d'attentat et tout ça, la réponse, c'est secret défense. Ce qui prouve à quel point les choses sont verrouillées. Sur la question de la démocratie, c'est très embêtant parce qu'on ne peut pas dire du tout que les choix nucléaires n'aient pas été approuvés, parce qu'on dit qu'il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a jamais eu de débat au sens où nous, on l'entendrait, c'est-à-dire mettre vraiment les choses sur la table avec les risques et tout ça. Mais grosso modo, la classe politique a toujours approuvé le programme nucléaire français, militaire, civil et militaire. Depuis De Gaulle, c'est sacré. Et vous avez eu presque une union sacrée politique, et vous le voyez bien dans le... Si vous examinez les partis, je veux dire, bon, ces programmes sont approuvés. Donc si on fait un débat à l'Assemblée sur la question nucléaire, il y a eu un débat, il n'y a pas eu un vote, mais il y a eu un débat quand l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. C'était en 1998 ou 1999. Il y a eu une séance de débat... Enfin, prise de parole des députés, il n'y avait pas de vote, mais il y a eu 21 députés ou 22 qui ont pris la parole. Il y en a eu deux, les pauvres. Il y avait un qui était l'un des quatre verts et l'autre qui était une socialiste qui d'abord, qui après est passé, Michel Rivasi, enfin, et Guy Asquette. Ils ont émis des réticences. Enfin, ils ont montré que quand même, ils trouvaient que, après tout, les Allemands avaient peut-être pas tort et que le nucléaire, bon, c'était quand même pas très bien. Mais les 19 autres ou les 20 autres, même ceux dont on sentait très bien qu'ils étaient proches des pétroliers ou proches des gaziers, parce que c'est comme ça que ça se passe, chaque fois la conclusion, c'était « Mais bien sûr, le nucléaire est formidable, on est les meilleurs et on allait faire la guerre ». C'était il fallait faire la guerre à l'Allemagne tellement l'Allemagne trahissait tout. Elle trahissait la France, elle trahissait l'Europe, elle trahissait le progrès scientifique, etc. Et donc, si vous voulez, c'est là que s'arrête, la discussion sur la démocratie. Si c'est une démocratie, vous élisez des députés, puis pendant 5 ans, vous êtes tranquille puisque le roi est élu. Ou bien si vous dites, il faut absolument la consultation des gens, des débats, etc. Bon, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense qu'on n'est pas plus... Enfin, Michael a raison, on n'est pas plus démocratique. Et on risque de l'être le moins parce qu'on est quand même le pays le plus centralisé actuellement du monde.
Deux questions très rapides. Sur la transparence, on évoque souvent la transparence ou la non-transparence de cette industrie. Qu'est-ce que vous attendriez, comme nouveaux indicateurs, nouveaux signes de cette industrie? Et deuxième point... Sur une échelle de Richter du risque lié à l'activité humaine que vous avez évoqué au départ, vous avez actuellement certains qui s'expriment sur, finalement, le changement climatique sur cette échelle-là serait plus élevé que le risque nucléaire. Donc, finalement, pour les anti-nucléaires, est-ce que ce n'est pas une nouvelle catastrophe que ce changement climatique qui, finalement, remet en cause vos sujets?
Oui, je peux répondre rapidement. Mais C'est du même ordre. Si vous, et la comparaison des risques, c'est toujours dangereux parce que vous allez trouver, bon, moi je, c'est deux choses qui sont assez nettement différentes. D'abord, par leur amplitude. Le changement climatique, c'est vraiment un problème planétaire et s'en sortir n'est pas très simple. C'est les mêmes méthodes, c'est-à-dire les économies d'énergie, les énergies renouvelables pour ce qui concerne l'énergie, mais il n'y a pas que ça. Et donc, c'est un problème collectif dont on voit la difficulté avec les négociations internationales qui se cassent la gueule, le fait que les ONG se débrouillent mal, etc. Bon, le problème nucléaire est relativement simple. C'est 4% de l'énergie dans le monde. Donc, si on se disait, écoutez, cette technique n'est pas maîtrisable, on s'en sort, ça ne change rien, sauf pour un pays pour qui c'est beaucoup plus difficile, c'est la France. Mais je veux dire, en moyenne, je veux dire, les États-Unis, c'est 19%, la Russie, c'est 15%, l'Angleterre, c'est 16%. Bon. Et la Corée, c'est un peu plus, donc ça lui poserait des problèmes, mais c'est pas de même nature. Alors, quant aux conséquences, c'est très difficile à dire, parce que c'est effectivement, si vous avez un accident nucléaire localisé, on peut dire que c'est moins grave que le climat dans 50 ans. Si vous commencez à avoir un Fukushima tous les 5 ans, ben bientôt la planète sera couverte de radioactivité. Alors, quand on commence à sortir, ben c'est la même, les mêmes réponses vis-à-vis du climat et vis-à-vis du nucléaire, c'est-à-dire la réduction des consommations d'énergie et le remplacement des énergies fossiles et nucléaires, mais le nucléaire étant très petit, par les énergies renouvelables. Bon, donc, si vous voulez, c'est pas contradictoire. Alors, les gens qui disent, bon, mais le nucléaire n'émet pas de CO2, donc c'est bien. D'accord, mais le charbon n'émet pas de déchets radioactifs. Donc, on peut considérer que c'est pas une raison. Et ensuite, si on voulait vraiment résoudre la question climatique avec du nucléaire, il faudrait faire tellement de nucléaire que c'est inenvisageable, si vous voulez, c'est pas une réponse. Et enfin, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui fait des scénarios de comparer, etc., nous dit que si on fait une réduction des émissions de CO2, à l'horizon, mettons, d'une vingtaine d'années ou 30 ans, la moitié des efforts doivent porter sur les économies d'énergie, 20% sur les énergies renouvelables, et 9%, ça serait le nucléaire. Bon. Donc, en gros, ça vaut pas le coup. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas la peine de courir ce risque nucléaire qui est quand même considérable par rapport à un problème qui est réel, qui est très grave et très important, qui est le climat, mais dont la solution n'est pas le nucléaire. Voilà.
Non, mais je trouve que Bernard a dit l'essentiel. Juste à titre personnel, ça me fait doucement rigoler quand je vois des pro-nucléaires qui tout d'un coup se transforment en défenseur de la sécurité climatique.
Si je puis rajouter,
à mon avis, c'est plus de l'ordre de la rhétorique un peu fumeuse et artificielle, comme Bernard vient de le démontrer.
Si je peux juste rajouter un petit point là-dessus, c'est si on suit la théorie de Giddens que j'évoquais au départ, des risques fabriqués, leur caractéristique essentielle, c'est que ce sont des risques que nous ne savons pas mesurer. Nous ne savons même pas s'ils existent, on ne sait pas quelle est leur ampleur, leur dimension, etc. Comme par exemple tout ce qui est lié aux faibles doses, effectivement. Donc, se lancer dans une comparaison des risques fabriqués serait extrêmement hasardeux. C'est bien le problème, à la différence des risques dits externes, qui eux, à la limite, peuvent être effectivement mesurés ou calculés.
Bonjour. Moi, je voudrais intervenir sur deux points. Le premier, c'est à partir du moment où il y a eu Hiroshima et Nagasaki au Japon, qui a eu quand même des catastrophes énormes, et d'une quantité humaine extraordinaire radioactivée, comment se fait-il que les dirigeants japonais n'ont pas tiré les conclusions adéquates et n'ont pas décidé de ne plus jamais toucher à cette chose-là qui s'appelle le nucléaire, d'une part. Je ne sais pas si vous avez des réponses à ça. Deuxième point que je voulais soulever aussi, c'est que en tant que citoyen franco-algérien, j'aimerais aussi que savoir si le peuple français, s'il y a des gens en France et à partir des dirigeants du haut en bas, en conscience de ce que la France a fait au Sahara algérien avec les explosions nucléaires à Reagan. Et 50 ans après, il y a encore des naissances et des malformations. Des gamins qui naissent avec trois bras, avec une jambe et demie, avec bon, il y a eu des victimes également françaises, mais beaucoup d'autochtones algériennes. Et là-dessus, il n'y a jamais eu de mea culpa, que ce soit au niveau du gouvernement français, de droite, de gauche ou du centre. Et bon, je ne sais, c'est pas une question vraiment, je ne sais pas, j'attends pas de réponse, mais c'est une confession. J'aimerais informer les Français qui sont là, les citoyens, de prendre conscience de ça et de se dire, il y a des choses aussi à revendiquer, la recherche de la vérité, la recherche du comment nettoyer ce passé néfaste et sombre. Voilà. Merci.
Alors, sur votre première question, je crois que j'y ai en partie répondu, en tout cas, tout à l'heure. C'est-à-dire, pourquoi le nucléaire au Japon? Effectivement, c'est une vraie question. Après Hiroshima, Nagasaki, et aussi dans un pays où le risque sismique est extraordinaire. Donc, c'est une vraie question que vous posez. Je crois que j'y ai en partie répondu. Il faut se souvenir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est un pays vaincu, occupé par les Américains, que l'énergie nucléaire donc va être promue d'abord par les Américains et ensuite dans le fameux miracle économique japonais, le nucléaire tient aussi sa place évidemment. Donc il y a des raisons à la fois politiques, commerciales, industrielles qui expliquent le développement de cette énergie malgré le précédent de Hiroshima et de Nagasaki. Sur le deuxième point, l'Algérie, alors là, vous avez tout à fait raison de rappeler ce fait. Les premiers essais nucléaires français ont eu lieu, comme vous le disiez, en Algérie. Et ensuite, on a fait des essais dans le Pacifique. Donc là, il y a un vrai problème. Si cette énergie n'est pas dangereuse, pourquoi fait-on les essais si loin ? Et dans des territoires soit colonisés, soit ex-colonisés. Donc là, on a effectivement une réflexion d'ordre politique assez intéressante sur la, je dirais, il faudrait affiner l'expression, mais la composante coloniale du nucléaire français.
Qui s'étend d'ailleurs aux mines d'uranium.
Oui, tout à fait.
Le Niger étant un très bon exemple. Mais vous avez tout à fait raison pour les victimes algériennes. Mais pour vous montrer là aussi l'omerta, c'est que je crois qu'il y a eu 400 plaintes sur cette question pour des Français actuellement, enfin, si vous voulez, indépendamment du Sahara. Et je crois qu'il y a eu 4 dossiers acceptés ou quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est vraiment, c'est exactement le même phénomène. Sur le premier truc, il faut bien voir que du côté des scientifiques, il y a tout ce que tu as dit, mais du côté des scientifiques, c'était une rédemption le nucléaire civil. Parce que les mêmes scientifiques, les grands physiciens, parce qu'il faut bien voir, c'est quand même des types qui étaient assez géniaux, puisque la fission n'a été découverte qu'en 1938, et dans les quelques années qui ont suivi, tout a été inventé. Donc... Et pour les physiciens, le nucléaire civil, c'était de compenser le nucléaire militaire. C'était l'inverse. C'était pas de dire, comme vous dites, ben c'est du nucléaire, donc il y a des produits radioactifs, donc c'est dangereux, donc j'en fais pas. C'était de dire, ah ben oui, c'est très différent. La bombe, ben c'est fait exprès pour exploser, pour tuer. Par contre, là, nous avons quelque chose qui, au contraire, n'est que bénéfice, va produire de l'électricité, et c'est formidable. Et avait, moi je me souviens de conversations où les scientifiques du CEA, qui étaient dans le domaine de la recherche, disant nous ne faisons pas le militaire, nous faisons la physique nucléaire qui est bien, les réacteurs nucléaires qui sont bien, et c'était l'autre face d'une médaille, vous voyez, c'était vraiment et c'est en ce sens que le discours d'Eisenhower était génial, c'était Atom for Peace, et ça a été... Et le paradoxe, c'est qu'on a créé l'AIEA, qui est la seule agence sur une technique au niveau des Nations Unies, et elle a un double rôle de contrôler le respect du traité de non-prolifération, donc la lutte contre le nucléaire militaire, si tant est que ça réussisse, et de promouvoir l'énergie nucléaire civile. C'est les mêmes. Et donc c'est très embêtant parce que à la fois ils font la promotion du nucléaire civil et donc ils vont en Algérie pour expliquer qu'il faut que l'Algérie fasse du nucléaire civil, ce qui est vrai. Le CEA va aussi en Algérie pour expliquer, ce qui est de la folie à mon avis à tout point de vue. Et en même temps ils disent ah mais il faut surtout pas faire du militaire, donc ce sont les mêmes techniques. C'est extraordinaire.
Autre question ? Oui, bonsoir. C'est plus un complément de point de vue, en fait. On a coécrit un livre qui s'appelle Oublier Fukushima, qui revient, en fait, sur le travail de l'État, là, japonais en particulier, mais en général des États nucléarisés, pour travailler la catastrophe en fait et l'intégrer au réel et en faire un élément nouveau du quotidien. Et c'est un petit peu pour compléter parce qu'on partage beaucoup d'analyses de Michael Ferrier dans ce livre, mais ce qui était dit tout à l'heure sur le fait que l'État japonais a globalement merdé en fait, qu'il a pas géré cette situation correctement du début à la fin et qui serait en fait la preuve que le nucléaire pose un problème à la démocratie. Quand on regarde vraiment ce qui s'est passé, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait l'État japonais n'a pas il a réussi quelque part en fait. Il a réussi non pas à sauver des vies, à évacuer des gens et à faire que le Japon reste un territoire habitable, mais il a réussi à sauver d'une certaine manière l'industrie nucléaire en fait. Et il a trouvé le moyen, en ne faisant rien et en ne faisant très très peu de choses, de faire disparaître cette catastrophe qui aujourd'hui apparaît comme déjà terminée. Et simplement, même ici, hein, ce soir, on en parle par moments sans faire attention, etc. On en parle au passé, alors qu'on sait qu'évidemment elle continue, que la centrale, enfin la situation n'est pas stabilisée et n'est pas stabilisable en fait. Et que des gens vivent et continuent en fait à se contaminer en permanence en ce moment. En fait, c'est une catastrophe à partir du moment où elle a commencé le 11 mars et elle s'est pas terminée. En fait, elle continue quoi. Un peu comme dans le désert algérien, Reagan, exactement comme à Tchernobyl, etc. Enfin, le nucléaire ne fait que commencer des catastrophes qui ne se terminent jamais. Voilà. Et le nucléaire. Le problème du nucléaire, c'est que ou de la catastrophe nucléaire, c'est qu'elle n'arrête pas. Elle n'arrête rien du tout. Au contraire, elle fait perdurer. Et elle fait perdurer en redonnant même de la force à cette industrie qui elle-même a créé les moyens de la destruction absolue. Et c'est là où quelque part ça va un petit peu plus loin qu'un questionnement de la démocratie. En fait, ça interroge même l'État simplement et la société industrielle en général, puisque de cette situation il n'y a rien à faire pour un État. Voilà, il n'y a rien et la situation japonaise en est la preuve absolue parce que évacuer des millions de personnes en gros, c'est-à-dire faire la seule chose à peu près tenable et responsable à l'égard de gens dont on aurait la responsabilité quand on est aux commandes d'un État, est absolument une manière de nier et serait une manière de reconnaître la négation absolue de sa capacité à gérer la situation. Et donc on ne peut pas évacuer des gens, donc on les fait vivre dans des territoires contaminés, et en les faisant vivre dans des territoires contaminés, on prouve une fois de plus que en fait, ce monde est vivable, y compris lorsqu'on est contaminé. Et donc, l'industrie nucléaire peut perdurer, puisqu'elle peut survivre à une catastrophe, puis à une autre catastrophe, puis à une autre catastrophe. Et ça ne met absolument pas en cause et c'est la tragédie éternellement répétée du nucléaire, quoi. C'est que chaque catastrophe vient renforcer, en fait, son assise sur le plan mondial, quoi. Et là, c'est ce qui se passe au Japon. Et juste pour finir, sur le plan de la santé, pour compléter un petit peu ce qui était dit tout à l'heure sur le traitement ou pas des populations sur place, c'est que les Japonais deviennent en fait les sujets d'une expérience grandeur nature, c'est ça. Et effectivement, il y a un suivi qui se met en place, mais c'est un suivi médical qui n'aura aucune conséquence quant au traitement et à la santé des populations sur place, exactement comme ce qui s'est passé après Tchernobyl, mais qui aura pour aboutissement de constituer des bases de données, une connaissance supplémentaire. Donc oui, l'industrie nucléaire va investir dans la recherche, mais elle va accumuler des connaissances pour dans 30 ans sur le corps des populations qui aujourd'hui se contaminent en allant ramasser leurs fleurs dans le jardin, etc. Donc c'est encore une fois, la magie magnifique de cette industrie et des États nucléarisés d'absorber en fait toute la contradiction et toute l'horreur qu'ils fabriquent et de la transformer en fait en acceptation généralisée, ce qui fait que voilà, 50 personnes s'intéressent à cette histoire 2 ans après, quoi, qui dans le flux et qui a absolument disparu dans le flux de l'information. Quoi, voilà.
Oui. C'est pas que je partage pas ce pessimisme, mais j'aimerais que tu aies tort. Mais y a quand même une chose, c'est que le Japon a décidé de sortir du nucléaire à l'horizon 2030. Donc après, on va voir si ce sont des belles paroles, si la décision politique va être suivie des faits. D'autre part, pour la médicalisation, effectivement, c'est un gigantesque laboratoire qui est en train de se mettre en place. En même temps, je connais des médecins, ils font leur boulot, ils le font bien, il ne faut pas non plus les prendre dans ce raisonnement. Il y a toujours des gens quand même qui résistent, ouais. Il y a toujours des gens qui sont là. Alors évidemment, c'est dérisoire, mais
Mais petit à petit, peut-être que les choses peuvent changer. En tout cas, la décision aujourd'hui du Japon de sortir de l'énergie nucléaire, on va voir ce qu'il en est, parce que c'est une décision qui a été annoncée ensuite dès le lendemain, qui a été discutée, un peu remise en question. Mais normalement, aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai compris, 2030, plus d'énergie nucléaire au Japon. On va voir ce qu'il en est. Le jeune homme qui a pris la parole, avec les trois personnes qui sont là, c'est Oublier Fukushima, Arkady Filin, un petit livre extraordinaire que je vous conseille aux éditions du Bout de la Ville, dont j'extrais pour vous en donner juste une idée sur le ton et la teneur. J'extrais la phrase suivante qui me semble non seulement très belle, mais surtout très juste. La véritable catastrophe nucléaire, ce n'est pas que tout s'arrête, mais que tout continue.
Moi, je me pose des questions au niveau, disons, idéologique, puisque justement, vous avez d'ailleurs fait allusion au fait que la France était un cas particulier, finalement, hein, parmi toutes les autres démocraties, le pays le plus centralisé, voire le pays le plus presque militarisé dans les esprits, enfin au moins au niveau de la classe politique. Enfin, est-ce que justement le nucléaire ne correspondrait pas exactement à cette idéologie du pouvoir, enfin qui est particulier peut-être à la France par rapport aux autres démocraties, qui est quand même un pays, enfin, qui a une conception du pouvoir quand même toujours très, finalement, autoritaire, hérité de la monarchie, etc. Et est-ce que finalement le nucléaire, en tant que technologie, en tant que concept même, je dirais, ne coïnciderait pas justement parfaitement avec cette idéologie, et ça expliquerait que la France soit un cas particulier dans ce domaine, quoi.
Oui. Non, mais tout à fait. C'était beaucoup mieux, d'ailleurs, du temps de la royauté, de ce point de vue-là, parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus de contre-pouvoirs du temps de la royauté, quand on regarde l'histoire de façon assez précise, que dans le régime français actuel. Vous avez très peu de contre-pouvoirs. Et dans le cas du nucléaire, je crois que quelqu'un posait la question, qu'est-ce qu'il faudrait comme changement dans les trucs. La contre-expertise, pratiquement, n'existe pas. Enfin, c'est le fait de quelques groupes ou de quelques personnes, mais c'est pratiquement sur les doigts de la main. Et c'est quand même extraordinaire, si vous voulez. D'ailleurs, on a vu pareil pour les OGM. Mais dans le cas du nucléaire, vous avez un groupe relativement homogène, qui est essentiellement le corps des mines, puisque le président de l'autorité de sûreté nucléaire est corps des mines, le président d'Areva est corps des mines, le directeur de l'énergie et du climat est corps des mines, le chef de la mission nucléaire est corps des mines. Et donc, vous avez un groupe de personnes qui est idéologiquement totalement homogène, qui est chargé de tout ça, et la contre-expertise qui devrait être... On parle de la démocratie, mais à la limite, si vous voulez, ce qui est essentiel, c'est l'histoire de la contre-expertise. Parce que même si vous faites un référendum sur le nucléaire, moi je veux bien, les gens voteront peut-être non ou oui, mais on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que ça sera par émotion, etc. Mais dans le fonctionnement de la société sur ces questions scientifiques, il faudrait au moins qu'il y ait l'organisation de la contre-expertise. Monsieur Machin dit ça, ma centrale nucléaire est sûre, je demande à des bureaux d'études qui sont en dehors, ou à des experts, etc., de faire une contre-expertise sur les gaz de schiste, sur le nucléaire, sur les OGM, etc. Et ça permettrait de dire, écoutez, maintenant, puisqu'il y a la thèse de considérer que c'est un procès, il y a ceux qui sont pour qui disent voilà, ceux qui disent non. C'est un peu ce qu'on fait avec le bouquin, en disant « mais c'est faux, ça peut péter, etc. » Mais c'est pas du tout admis dans le fonctionnement. Et ça devrait être le fonctionnement. Et en ce sens, c'est totalement dictatorial, sous des apparences de démocratie élective, etc. Mais parce que vous avez un monopole du savoir, non seulement du savoir, mais du pouvoir sur ces questions. Donc, si vous avez à la fois le savoir, le pouvoir et le fric... je veux dire, c'est pas ce qu'on appelle la démocratie. Donc il y a vraiment l'organisation même du fonctionnement des choses, indépendamment de la consultation. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Mais vous avez raison, et le nucléaire est parfaitement adapté à ça, puisqu'il est forcément centralisé. Vous avez ces 19 centrales nucléaires extrêmement puissantes qui tiennent toute la production d'électricité. Et je sais que la production d'électricité dans un pays, maintenant, si vous n'avez pas d'électricité, c'est la panique totale. Donc cet ensemble-là tient le pays. C'est clair. Si on regarde, si tout à coup tout s'éteignait à Paris, c'est terrible. Donc Et donc c'est vraiment un pouvoir extraordinaire, beaucoup plus fort que celui du roi, même Louis XIV.
Bonsoir. J'ai une question pour chaque intervenant. D'abord, Monsieur Laponche. J'ai récemment assisté au forum énergie France-Japon par le comité d'échange franco-japonais, donc vous devez sûrement savoir de quoi il en retourne. Les industriels nucléaires franco-japonais, justement là, pour le coup, je pense qu'il faudrait peut-être dépasser le seul clivage national. En fait, je pense que c'est plutôt une optique de coopération. Qu'est-ce que vous penserez de voir plutôt l'industrie du nucléaire plutôt comme un réseau international, en fait. Je pense qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes implications. Les experts français comme japonais sont d'accord sur l'incompétence des hommes politiques et pensent très fort, hein, quand il s'agit d'être dans une chambre de commerce, qu'ils garderont au moins 25% du nucléaire jusqu'en 2040. Donc là-dessus, je ne sais pas. Peut-être que ces gens-là ont plus de pouvoir que les États eux-mêmes. Mais est-ce que vous analyseriez l'industrie nucléaire plutôt comme dans une optique de coopération globale, hein, est-ce que ça changerait peut-être l'optique de l'analyse de l'industrie nucléaire?
Non, c'est vrai, en particulier ce que vous disiez sur le fait, enfin, ce que disait Michael sur le fait que les États-Unis, par exemple, dans les années 60, pratiquement tout le monde entier, sauf l'URSS, par définition, ont pris les modèles américains. Et donc, vous avez une multinationale du nucléaire qui est très forte, avec cette agence dont j'ai parlé, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui lui sert un peu d'église. Et puis, toute la déclinaison du nucléaire. Alors, il y a aussi des rivalités, mais il y a aussi des alliances. Et vous avez raison, il y a de fortes liaisons. Et actuellement, il y a des rapprochements entre l'industrie nucléaire française, soit avec les Japonais, soit avec les Chinois, soit avec les Russes. Donc tout ça est très, très multinational. C'est tout à fait juste.
Il y a quelques jours, les journaux annonçaient la construction d'une des centrales les plus sûres, attention, au Vietnam.
Oui.
Nous, par le Japon et la France, je crois que c'était Mitsubishi et Areva, donc je pense plutôt, en fait, avoir les lobbies, enfin je pense pas avoir des lobbies nucléaires séparés, mais plutôt voir peut-être un commerce international déjà à part entière qui échappe peut-être.
Non, mais qui échappe pas, les États sont cul et chemise avec ce. La dernière décision du Conseil de politique nucléaire français qui s'est tenue, Conseil de politique nucléaire, c'est le président de la République plus 10 ministres et qui prend des décisions sur le nucléaire, alors là, indépendamment de toute autre considération. Et le dernier paragraphe met l'accent sur l'importance de l'alliance avec la Chine, le Japon et tout ça pour que le nucléaire soit l'énergie dominante, patati patata. Donc c'est vrai que c'est très international et très multinational, c'est tout à fait juste.
J'aimerais que vous me donniez quelques détails, en fait, sur les dissensions au sein des mouvements antinucléaires japonais entre ceux du nord-est, des régions du nord-est, et ceux des mouvements de Tokyo récemment dans les manifestations. Je suis aussi les médias en ligne. Il y avait récemment une femme venant des régions du nord-est, en fait, qui hurlait aux manifestants de Tokyo de demander d'arrêter les centrales immédiatement parce que les gens dans les régions du Nord-Est finalement continuent à travailler contre vent et marée, c'est le cas de le dire, et qu'au final, elle me donnait plutôt l'impression que les populations du Nord-Est étaient là pour assister les ouvriers qui acceptaient plus ou moins de travailler là-bas. Je pense que ma vision est pas tout à fait complète, donc je voulais avoir.
Non, le problème, c'est qu'il faut se mettre à la place des gens du Tohoku, donc du nord-est du Japon, qui sont vraiment dans une mouise pas possible. Donc si en plus, lorsque vous êtes agriculteur, que vous avez subi le séisme, le tsunami, la catastrophe nucléaire, vous essayez de vendre vos produits sur le marché japonais
et que dès que c'est étiqueté Fukushima ou préfecture de Fukushima ou les préfectures adjacentes, voisines, vous prenez, enfin, vous avez, vos produits sont refusés. Donc, effectivement, dans le Nord-Est, les gens, et ce n'est pas si paradoxal que ça, insistent auprès des, même les antinucléaires du Nord-Est demandent à ceux de Tokyo, par exemple, qui ont des positions beaucoup plus intellectuelles, on va dire, et tranchées et assez radicales, ils insistent pour leur dire, faites attention, parce que nous, quand même, on essaye de continuer à vivre, et ça veut dire aussi vendre nos produits, ça veut dire ne pas faire d'amalgame entre plusieurs régions, ça veut dire essayer de sérier un peu plus, de faire un peu plus dans la nuance, dans la lutte antinucléaire elle-même. Donc ça, c'est voilà le genre de dissension qui existe, mais ce sont des dissensions tout à fait normales. Pour ma part, je trouve que c'est pas, ce serait un problème si il y avait une espèce d'unanimité de façade. Et puis, alors je voulais rebondir, comme on dit aujourd'hui, sur ce qu'on a entendu, sur ce que vous-même vous avez dit, c'est-à-dire la construction d'une centrale au Vietnam. C'est très important. On a parlé beaucoup de démocratie. Il faut dire les choses aussi clairement. C'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Le nucléaire, il y a un cinéaste célèbre qui a fait le film L'argent, qui disait que dans le cinéma, tout le monde parle d'argent, mais on ne le voit jamais dans les films. C'est pour ça qu'il a fait le film qui s'intitule L'argent. Où c'est comme dans l'édition où on parle jamais d'argent. Dans le nucléaire, c'est vraiment un problème d'argent aussi, et peut-être avant toute chose. C'est-à-dire que le nucléaire rapporte de l'argent à la France parce qu'on construit des centrales. Il y a un site qui est très bien fait pour ça, qui s'appelle World Nuclear Association. Association nucléaire mondiale.org. Vous allez sur ce site sur Internet et vous avez mis à jour régulièrement le nombre de centrales en construction, le nombre de centrales envisagées. Je vous donne un exemple. 1er juin 2011, c'est-à-dire quelques mois après Fukushima, il y avait 441 réacteurs en service, 60 en construction, 155 planifiés et 338 envisagés. C'est-à-dire qu'on est face à une énorme quantité d'argent qui est là, dont on sait très bien qu'il est là, et alors vous allez me dire mais c'est pas mauvais de gagner de l'argent. Ouais, je suis tout à fait d'accord pour gagner de l'argent avec le nucléaire. Simplement, il faut aussi dire combien ça coûte. Et alors là, combien ça coûte, on est dans les estimations les plus farfelues, les plus fantaisistes, les plus contradictoires, ne serait-ce que sur le problème pourtant crucial des déchets. Les déchets radioactifs, on ne sait pas où les mettre, on ne sait pas comment les traiter. Et alors, au début, on disait, mais attendez, on va trouver, ça fait 40 ans qu'on ne trouve pas. Et ce n'est pas inclus la plupart du temps dans les prix, le prix du coût de revient d'électricité, par exemple. Donc voilà, donc la question que posait madame tout à l'heure est très bonne. En quoi vous voulez plus de transparence, vous qui dénoncez l'opacité? Bernard Laponche parlait des contre-expertises. Moi, j'aimerais bien un peu plus de transparence sur toutes les questions financières liées à l'industrie nucléaire. Et là, on va rigoler 5 minutes quand on va voir les chiffres.
Là, on a un chiffre sur le coût des catastrophes qui a été donné, c'est basé sur un rapport de l'IRSN qui n'est jamais sorti, mais ça a été donné par la Cour des comptes. La petite catastrophe, Three Mile Island, c'est un réacteur détruit. C'est entre 70 et 100 milliards de dollars. Et Tchernobyl ou Fukushima, l'estimation actuelle, c'est entre 600 et 1000 milliards de dollars. Donc il y a ça aussi, si vous voulez, dans la réflexion sur le nucléaire, c'est que le nucléaire n'est pas assuré, justement, parce que la catastrophe est si chère. Et donc, c'est les États, c'est-à-dire c'est tout le monde qui paye. Les assureurs refusent, parce que, autant ils assurent pour des catastrophes naturelles, etc., mais là, sur le nucléaire, ils disent non. Parce que c'est trop élevé.
Pour donner un exemple, TEPCO, donc l'opérateur de la centrale de Fukushima, refuse d'indemniser certains territoires qui ont été touchés par les retombées radioactives en arguant du fait que la radioactivité ne leur appartient pas. Elle appartient à ceux qui sont propriétaires fonciers. Donc il serait intéressant de savoir, dans le cas d'un accident en France, il serait intéressant de savoir, est-ce qu'il y a des textes qui existent sur l'indemnisation éventuelle ? Non. Comment ça se passerait de ce point de vue-là ? Voilà, là on peut demander très concrètement des données et de la transparence, et même plus que de la transparence, on peut demander tout simplement à ce que ces données déjà existent. Non. Apparemment, ce n'est pas encore le cas.
Vous pourrez poser vos questions directement peut-être aux intervenants.
Mais finalement, quels habitants sommes-nous ?
Les habitants, des citoyens du monde.
Vous êtes triste, hein, vous écoutez.
Non,
il y a une chose à faire, c'est les économies d'électricité.
Voilà.
Ben voilà, c'est voilà un message clair et net que vous pouvez faire dès chez vous, dès ce soir.
Des citoyens éclairés, radieux et actifs.